des tromperies auprès de leurs clients. On a vu régulièrement, et la presse en a fait l'écho, des opérations complètement délirantes. Et ces opérations délirantes ne sont pas des opérations isolées. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de schémas frauduleux et l'escroquerie dans ces activités. Alors l'escroquerie, elle est, à mon avis, elle a deux causes principales. Une des causes, c'est le manque de sérieux, de rigueur de l'État. L'État devrait fliquer beaucoup plus ses produits. Et il y a énormément de schémas de défiscalisation qui n'ont pas été sérieusement contrôlés par les services fiscaux, qui n'ont pas toujours les moyens pour le faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la première raison. Mais à mon avis, il y a une raison plus profonde au développement de l'escroquerie dans la défiscalisation. C'est lié à la psychologie de l'investisseur. L'investisseur, à partir du moment où il entend le mot défiscalisation, il perd complètement son bon sens, il perd complètement sa capacité à raisonner, à réfléchir et son sens critique. Donc, il est la victime idéale de l'escroc. L'escroc arrive à lui faire croire des tas de trucs complètement fous et débiles. Et quand, quelques années après, quand vous vous êtes confronté à ce... Moi, en tant qu'avocat, quand je vois cet investisseur, je lui dis, mais quand même, là, regardez le schéma qu'on vous a fait. Regardez la simulation. Il y a une escroquerie, là, il y a une tromperie. Là, on vous a fait croire que ceci, on vous a fait... Franchement, si vous aviez mieux lu, hein, vous seriez rendu compte. Et il y a des gens très intelligents, des gens qui ont des hauts niveaux d'études et qui ont sur des tas d'autres sujets un sens critique certainement très développé. Mais là, parce qu'il s'agit de défiscaliser, ils perdent tout sens critique, tout bon sens, et ils sont prêts à plonger dans des trucs complètement fous, à croire le premier marabout venu finalement. Et vous voyez, c'est ça, pour ça qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Paradoxalement, c'est pas les gens très riches qui font de la défiscalisation. En tout cas, qui font les gros bataillons des investisseurs en défiscalisation. Les gros bataillons, c'est plutôt la classe moyenne ou moyenne supérieure qui, de manière ponctuelle, se retrouve avec des revenus importants et qui devient à moitié cinglé parce qu'ils se rendent compte qu'ils payent trop d'impôts. Les gens très riches n'ont pas besoin de défiscalisation. Les gens très riches, effectivement, ils ont des techniques soit légales, soit illégales, mais ils ont des techniques infaillibles, bien meilleures. Ils ne sont pas victimes, en tout cas, des escrocs, les gens très riches, parce qu'ils ont effectivement les conseillers qui les aident. Ils ont des avocats, ils ont des banquiers de qualité et ils mettent en place des schémas plus astucieux. Voilà.
Bon, alors je continue mon enquête sur les pigeons de la défiscalisation immobilière. Et là, je me trouve donc dans le 6e arrondissement de Paris. Je longe les grilles dorées du jardin du Luxembourg pour me rendre au Sénat, où je vais rencontrer Madame Michèle de Messine, qui est aujourd'hui sénatrice du Nord, mais qui autrefois, entre 1997 et 2001, était secrétaire d'État au tourisme sous le gouvernement Jospin. Alors, Madame de Messine est communiste, et aussi étrange que cela puisse paraître, elle a donné son nom à une loi de défiscalisation immobilière, la loi de Messine. Et c'est en investissant dans ses résidences de tourisme, alléchées par la réduction d'impôts que proposait la loi, que beaucoup d'épargnants se sont cassés les dents. Le syndicat national des résidences de